Pauline, chapitre 1. Il y a 3 ans, il arriva à Saint-Front, petite ville fort laide qui est située dans nos environs et que je ne vous engage pas à chercher sur la carte, même sur celle de Cassini. Une aventure qui fit beaucoup jaser, quoiqu'elle n'eût rien de bien intéressant par elle-même, mais dont les suites furent fort graves, quoiqu'on n'en ait rien su. C'était par une nuit sombre et par une pluie froide. Une chaise de poste entra dans la cour de l'auberge du Lion couronné. Une voix de femme demanda des chevaux « Vite, vite !» Le postillon vient lui répondre fort lentement que cela était facile à dire, mais qu'il n'y avait pas de chevaux, vu que l'épidémie, cette même épidémie qui est en permanence dans certains relais sur les routes peu fréquentées, en avait enlevé 37 la semaine dernière. Qu'enfin, on pourrait partir dans la nuit, mais qu'il fallait attendre que l'attelage qui venait de conduire la malle-poste fût un peu rafraîchi. « Cela sera-t-il bien long ?» demanda le laquais en paqueté de fourrure qui était installé sur le siège. « C'est l'affaire d'une heure, » répondit le postillon à demi débotté. « Nous allons nous mettre tout de suite à manger l'avoine. » Le domestique jura. Une jeune et jolie femme de chambre qui avançait à la portière, sa tête entourée de foulards en désordre, murmura je ne sais quelle plainte touchante sur l'ennui et la fatigue des voyages. Quant à la personne qu'escortaient ces deux laquais, elle descendit lentement sur le pavé humide et froid, secoua sa pelisse doublée de martre et prit le chemin de la cuisine sans proférer une seule parole. C'était une jeune femme d'une beauté vive et saisissante, mais pâlie par la fatigue. Elle refusa l'offre d'une chambre, et tandis que ses valets préféraient s'enfermer et dormir dans la berline, elle s'assit devant le foyer, sur la chaise classique, ingrat et revêche asile du voyageur résigné. La servante, chargée de veiller son quart de nuit, se remit à ronfler, le corps plié sur un banc et la face appuyée sur la table. Le chat, qui s'était dérangé avec humeur pour faire place à la voyageuse, se blottit de nouveau sur les cendres tièdes. Pendant quelques instants, il fixa sur elle des yeux verts et luisants, pleins de dépit et de méfiance. Mais peu à peu, sa prunelle se resserra et s'amoindrit jusqu'à n'être plus qu'une mince raie noire sur un fond d'émeraude. Il retomba dans le bien-être égoïste de sa condition, fit le gros dos, ronfla sourdement en signe de béatitude et finit par s'endormir entre les pattes d'un gros chien qui avait trouvé moyen de vivre en paix avec lui, grâce à ces perpétuelles concessions que, pour le bonheur des sociétés, le plus faible impose toujours au plus fort. La voyageuse essaya vainement de s'assoupir. Mille images confuses passaient dans ses rêves et la réveillaient en sursaut. Tous ces souvenirs puérils qui obsèdent parfois les imaginations actives se pressèrent dans son cerveau et s'évertuèrent à le fatiguer sans but et sans bruit, jusqu'à ce qu'enfin une pensée dominante s'établit à leur place. Oui, c'était une triste ville, pensa la voyageuse. Une ville aux rues anguleuses et sombres, aux pavés raboteux. Une ville laide et pauvre, comme celle-ci m'est apparue à travers la vapeur qui couvrait les glaces de ma voiture. Seulement, il y a dans celle-ci un ou deux, peut-être 3 réverbères, et là-bas il n'en avait pas un seul. Chaque piéton marchait avec son falot après l'heure du couvre-feu. C'était affreux, cette pauvre ville, et pourtant j'y ai passé des années de jeunesse et de force. J'étais bien autre alors. J'étais pauvre de condition, mais j'étais riche d'énergie et d'espoir. Je souffrais bien. Ma vie se consumait dans l'ombre et dans l'inaction. Mais qui me rendra ces souffrances d'une âme agitée par sa propre puissance? Ô jeunesse du cœur, qu'êtes-vous devenue? Puis, après ces apostrophes un peu emphatiques que les têtes exaltées prodiguent parfois à la destinée, sans trop de sujet peut-être, mais par suite d'un besoin inné qu'elle éprouve de dramatiser leur existence à leurs propres yeux, la jeune femme sourit involontairement, comme si une voix intérieure lui eût répondu qu'elle était heureuse encore, et elle essaya de s'endormir en attendant que l'heure fût écoulée. La cuisine de l'auberge n'était éclairée que par une lanterne de fer suspendue au plafond. Le squelette de ce luminaire dessinait une large étoile d'ombre tremblotante sur tout l'intérieur de la pièce et rejetait sa pâle clarté vers les solives enfumées d'un plafond. L'étrangère était donc entrée sans rien distinguer autour d'elle, et l'état de demi-sommeil où elle était l'avait d'ailleurs empêchée de faire aucune remarque sur le lieu où elle se trouvait. Tout à coup, l'éboulement d'une petite avalanche de cendres dégagea deux tisons mélancoliquement embrassés. Un peu de flamme frissonna, jaillit, pâlit, se ranima, et grandit enfin jusqu'à illuminer tout l'intérieur de l'âtre. Les yeux distraits de la voyageuse, suivant machinalement ses ondulations de lumière, s'arrêtèrent tout à coup sur une inscription qui ressortait en blanc sur un des chambranles noircis de la cheminée. Elle tressaillit alors, passa la main sur ses yeux appesantis, ramassa un bout de branche embrasée pour examiner les caractères et le laissa retomber en s'écriant d'une voix émue. Oh, « Dieu, où suis-je? Est-ce un rêve que je fais ?» À cette exclamation, la servante s'éveilla brusquement et se tournant vers elle, lui demanda si elle l'avait appelée. « Oui, oui !» s'écria l'étrangère. « Venez ici. Dites-moi, qui a écrit ces deux noms sur le mur ?»«
Deux noms ?» dit la servante ébahie. « Quel nom ?»«
Oh !» dit l'étrangère en se parlant avec une sorte d'exaltation. « Son nom est le mien, Pauline, Laurence, et cette date, 10 février 1820. Oh, dites-moi pourquoi ces noms et cette date sont ici ?»«
Madame, répondit la servante, je n'y avais jamais fait attention et d'ailleurs je ne sais pas lire. »«
Mais où suis-je donc? Comment nommez-vous cette ville? N'est-ce pas Villiers, la première poste après Lyon ?»«
Mais non pas, madame. » « Vous êtes à Saint-Front, route de Paris, hôtel du Lion couronné. »«
Oh, ciel !» s'écria la voyageuse avec force en se levant tout à coup. La servante épouvantée la crut folle et voulut s'enfuir, mais la jeune femme l'arrêtant, « Oh, par grâce, restez » dit-elle. « Et parlez-moi, comment se fait-il que je sois ici? Dites-moi si je rêve. Si je rêve, éveillez-moi. »
« Mais madame, vous ne rêvez pas, ni moi non plus, je pense, » répondit la servante.
« Vous vouliez donc aller à Lyon ?
Eh bien, mon Dieu, vous aurez oublié de l'expliquer au postillon, et tout naturellement, il aura cru que vous alliez à Paris. Dans ce temps-ci, toutes les voitures de poste vont à Paris. »«
Mais je lui ai dit moi-même que j'allais à Lyon. »«
Oh, dame, c'est que Baptiste est sourd à ne pas entendre le canon, et avec cela qu'il dort sur son cheval la moitié du temps, et que ses bêtes sont accoutumées à la route de Paris dans ce temps-ci. »
« À Saint-Front !» répétait l'étrangère. « Oh, singulière destinée qui me ramène au lieu que je voulais fuir. J'ai fait un détour pour ne point passer ici, et parce que je me suis endormie 2 heures, le hasard m'y conduit à mon insu. Eh bien, c'est Dieu peut-être qui le veut. Sachons ce que je dois retrouver ici de joie ou de douleur. »
« Dites-moi, ma chère, » ajouta-t-elle en s'adressant à la fille d'auberge, « connaissez-vous dans cette ville Mademoiselle Pauline D. ?»
« Je n'y connais personne, madame, » répondit la fille. « Je ne suis dans ce pays que depuis 8 jours. »« Mais allez me chercher une autre servante, quelqu'un, je veux le savoir. Puisque je suis ici, je veux tout savoir. Est-elle mariée, est-elle morte? Allez, allez, informez-vous de cela, courez donc !»
La servante objecta que toutes les servantes étaient couchées, que le garçon d'écurie et les postillons ne connaissaient au monde que leurs chevaux. Une prompte libéralité de la jeune dame la décida à aller réveiller le chef, et après un quart d'heure d'attente qui parut mortellement long à notre voyageuse, on vint enfin lui apprendre que Mademoiselle Pauline D. n'était point mariée et qu'elle habitait toujours la ville. Aussitôt, l'étrangère ordonna qu'on mît sa voiture sous la remise et qu'on lui préparât une chambre. Elle se mit au lit en attendant le jour, mais elle ne put dormir. Ses souvenirs, assoupie ou combattue longtemps, reprenait alors toute leur puissance. Elle reconnaissait toutes les choses qui frappaient sa vue dans l'auberge du Lion couronné. Quoique l'antique hôtellerie eût subi de notables améliorations depuis 10 ans, le mobilier était resté à peu près le même. Les murs étaient encore revêtus de tapisseries qui représentaient les plus belles scènes de l'Astrée. Les bergères avaient des reprises de fil blanc sur le visage, et les bergers en lambeaux flottaient suspendus à des clous qui leur perçaient la poitrine. Il y avait une monstrueuse tête de guerrier romain dessinée à l'estampe par la fille de l'aubergiste et encadrée dans 4 baguettes de bois peint en noir sur la cheminée, un groupe de cire, représentant Jésus à la crèche, jaunissait sous un dais de verre filé. « Hélas !» se disait la voyageuse. « J'ai habité plusieurs jours cette même chambre il y a 12 ans lorsque je suis arrivée ici avec ma bonne mère. C'est dans cette triste ville que je l'ai vue dépérir de misère et que j'ai failli la perdre. J'ai couché dans ce même lit la nuit de mon départ. Quelle nuit de douleur et d'espoir, de regret et d'attente. Comme elle pleurait, ma pauvre amie, ma douce Pauline, en m'embrassant sous cette cheminée où je m'éveillais tout à l'heure sans savoir où j'étais. » Comme je pleurais moi aussi en écrivant sur le mur son nom au-dessous du mien avec la date de notre séparation. Pauvre Pauline, quelle existence a été la sienne depuis ce temps-là? L'existence d'une vieille fille de province. Cela doit être affreux. Elle, si aimante, si supérieure à tout ce qui l'entourait. Et pourtant je voulais la fuir, je m'étais promis de ne la revoir jamais. Je vais peut-être lui apporter un peu de consolation, mettre un jour de bonheur dans sa triste vie. Si elle me repoussait pourtant, si elle était tombée sous l'empire des préjugés. Ah, cela est évident, ajouta tristement la voyageuse. Comment puis-je en douter? N'a-t-elle pas cessé tout à coup de m'écrire en apprenant le parti que j'avais pris? Elle aura craint de se corrompre ou de se dégrader dans le contact d'une vie comme la mienne. « Ah, Pauline, elle m'aimait tant, et elle aurait rougi de moi. Je ne sais plus que penser. À présent, je me sens si près d'elle. À présent que je suis sûre de la retrouver dans la situation où je l'ai connue, je ne peux plus résister au désir de la voir. Oh, je la verrai, dût-elle me repousser. Si elle le fait, que la honte en retombe sur elle. » J'aurais vaincu les justes défiances de mon orgueil, j'aurais été fidèle à la religion du passé. C'est elle qui se sera parjurée. Au milieu de ces agitations, elle vit monter le matin gris et froid derrière les toits inégaux des maisons déjetées qui s'accoudaient disgracieusement les unes aux autres. Elle reconnut le clocher qui sonnait jadis ses heures de repos ou de rêverie. Elle vit s'éveiller les bourgeois en classiques bonnets de coton, et de vieilles figures dont elle avait un confus souvenir apparurent toutes refrognées aux fenêtres de la rue. Elle entendit l'enclume du forgeron retentir sous les murs d'une maison décrépite. Elle vit arriver au marché les fermiers en manteau bleu et en coiffe de toile cirée. Tout reprenait sa place et conservait son allure comme au jour du passé. Chacune de ces circonstances insignifiantes faisait battre le cœur de la voyageuse, quoique tout lui semblât horriblement laid et pauvre. « Et quoi ? » disait-elle. « J'ai pu vivre ici 4 ans entiers sans mourir. J'ai respiré cet air. J'ai parlé à ces gens-là. J'ai dormi sous ces toits couverts de mousse. J'ai marché dans ces rues impraticables. Et Pauline, ma pauvre Pauline, vit encore au milieu de tout cela. Elle qui était si belle, si aimable, si instruite. Elle qui aurait régné et brillé comme moi sur un monde de luxe et d'éclat. » Aussitôt que l'horloge de la ville eut sonné 7 heures, elle acheva sa toilette à la hâte, et laissant ses domestiques maudire l'auberge et souffrir les incommodités du déplacement avec cette impatience et cette hauteur qui caractérisent les laquais de bonne maison, elle s'enfonça dans une des rues tortueuses qui s'ouvrait devant elle, marchant sur la pointe du pied avec l'adresse d'une Parisienne, et faisant ouvrir de gros yeux à tous les bourgeois de la ville pour qui une figure nouvelle était un grave événement. La maison de Pauline n'avait rien de pittoresque, quoiqu'elle fût fort ancienne. Elle n'avait conservé de l'époque où elle fut bâtie que le froid et l'incommodité de la distribution. Du reste, pas une tradition romanesque, pas un ornement de sculpture élégante ou bizarre, pas le moindre aspect de féodalité romantique. Tout y avait l'air sombre et chagrin, depuis la figure de cuivre ciselée sur le marteau de la porte, jusqu'à celle de la vieille servante, non moins laide et rechignée, qui vint ouvrir, toisa l'étrangère avec dédain, et lui tourna le dos, après lui avoir répondu sèchement « Elle y est ». La voyageuse éprouva une émotion à la fois douce et déchirante en montant l'escalier en vis auquel une corde luisante servait de rampe. Cette maison lui rappelait les plus fraîches années de sa vie. les plus pures scènes de sa jeunesse. Mais en comparant ses témoins de son passé au luxe de son existence présente, elle ne pouvait s'empêcher de plaindre Pauline, condamnée à végéter là, comme la mousse verdâtre qui se traînait sur les murs humides. Elle monta sans bruit et poussa la porte qui roula sur ses gonds en silence. Rien n'était changé dans la grande pièce décorée par les hôtes du titre de salon. Le carreau de briques rougeâtres bien lavé, les boiseries brunes soigneusement dégagées de poussière, la glace dont le cadre en chêne sculpté avait été doré jadis, les meubles massifs brodés au petit point par quelque aïeul de la famille et deux ou trois tableaux de dévotion légués par l'oncle, curé de la ville, tout était précisément resté à la même place et dans le même état de vétusté robuste depuis 10 ans, 10 ans pendant lesquels l'étrangère avait vécu des siècles. Aussi, tout ce qu'elle voyait la frappait comme un rêve. La salle, vaste et basse, offrait à l'œil une profondeur terne qui n'était pourtant pas sans charme. Il y avait dans le vague de la perspective, de l'austérité et de la méditation, comme dans ces tableaux de Rembrandt, où l'on ne distingue, sur le clair-obscur, qu'une vieille figure de philosophe ou d'alchimiste brune et terreuse comme les murs, terne et maladive comme le rayon habilement ménagé où elle nage. Une fenêtre à carreaux étroits et montée en plomb, ornée de pots de basilic et de géranium, éclairait seule cette vaste pièce. Mais une suave figure se dessinait dans la lumière de l'embrasure et semblait placée là, comme à dessein, pour ressortir seule et par sa propre beauté dans le tableau. C'était Pauline. Elle était bien changée, et comme la voyageuse ne pouvait voir son visage, elle douta longtemps que ce fût elle. Elle avait laissé Pauline plus petite de toute la tête, et maintenant Pauline était grande et d'une ténuité si excessive qu'on eût dit qu'elle allait se briser en changeant d'attitude. Elle était vêtue de brun avec une petite collerette d'un blanc scrupuleux et d'une égalité de plis vraiment monastique. Ses beaux cheveux châtains étaient lissés sur ses tempes avec un soin affecté. Elle se livrait à un ouvrage classique, ennuyeux, odieux à toute organisation pensante. Elle faisait de très petits points réguliers avec une aiguille imperceptible sur un morceau de batiste dont elle comptait la trame fil par fil. La vie de la grande moitié des femmes se consume en France à cette solennelle occupation. Quand la voyageuse eut fait quelques pas, elle distingua dans la clarté de la fenêtre les lignes brillantes du beau profil de Pauline. Ses traits réguliers et calmes, ses grands yeux voilés et nonchalants, son front pur et uni, plutôt découvert qu'élevé, sa bouche délicate, qui semblait incapable de sourire. Elle était toujours admirablement belle et jolie, mais elle était maigre et d'une pâleur uniforme qu'on pouvait regarder comme passée à l'état chronique. Dans le premier instant, son ancienne amie fut tentée de la plaindre. Mais en admirant la sérénité profonde de ce front mélancolique, doucement penché sur son ouvrage, elle se sentit pénétrée de respect bien plus que de pitié. Elle resta donc immobile et muette à la regarder. Mais si sa présence se fut révélée à Pauline par un mouvement instinctif du cœur, celle-ci se tourna tout à coup vers elle et la regarda fixement, sans dire un mot et sans changer de visage. « Pauline, ne me reconnais-tu pas ? » s'écria l'étrangère. « As-tu oublié la figure de Laurence ?» Alors Pauline jeta un cri, se leva et retomba sans force sur un siège. Laurence était déjà dans ses bras et toutes deux pleuraient. « Tu ne me reconnaissais pas ?» dit enfin Laurence. « Oh, que dis-tu là ? » répondit Pauline. « Je te reconnaissais bien, mais je n'étais pas étonnée. Tu ne sais pas une chose, Laurence. C'est que les personnes qui vivent dans la solitude ont parfois d'étranges idées. Comment le dirais-je ? Ce sont des souvenirs, des images qui se logent dans leur esprit et qui semblent passer devant leurs yeux. Ma mère appelle cela des visions. Moi, je sais bien que je ne suis pas folle. Mais je pense que Dieu permet souvent, pour me consoler dans mon isolement, que les personnes que j'aime m'apparaissent tout à coup au milieu de mes rêveries. Va, bien souvent je t'ai vue là devant cette porte, debout comme tu étais tout à l'heure et me regardant d'un air indécis. J'avais coutume de ne rien dire et de ne pas bouger pour que l'apparition ne s'envolât pas. Je n'ai été surprise que quand je t'ai entendu parler. Oh, alors ta voix m'a réveillée. Elle est venue me frapper jusqu'au cœur. Chère Laurence, c'est donc toi vraiment. Dis-moi, dis-moi bien que c'est toi. Quand Laurence eut timidement exprimé à son ami la crainte qu'il avait empêchée depuis plusieurs années de lui donner des marques de son souvenir, Pauline l'embrassa en pleurant. « Oh mon Dieu, dit-elle, tu as cru que je te méprisais, que je rougissais de toi? Moi qui t'ai conservé toujours une si haute estime, moi qui savais si bien que dans aucune situation de la vie il n'était possible à une âme comme la tienne de se dégrader. » Laurence rougit et pâlit en écoutant ces paroles. Elle renferma un soupir et baisa la main de Pauline avec un sentiment de vénération. « Il est bien vrai, reprit Pauline, que ta condition présente révolte les opinions étroites et intolérantes de toutes les personnes que je vois. Une seule porte dans sa sévérité un reste d'affection et de regret. C'est ma mère. Elle te blâme, il faut bien t'attendre à cela, mais elle cherche à t'excuser et l'on voit qu'elle lance sur toi l'anathème avec douleur. Son esprit n'est pas éclairé, tu le sais, mais son cœur est bon, pauvre femme. Comment ferais-je donc pour me faire accueillir ? Demanda Laurence. Hélas, répondit Pauline, il serait bien facile de la tromper, elle est aveugle. Aveugle ? Oh mon Dieu ! Laurence resta accablée à cette nouvelle, et songeant à l'affreuse existence de Pauline, elle la regardait fixement, avec l'expression d'une compassion profonde et pourtant comprimée par le respect. Pauline la comprit, et lui pressant la main avec tendresse, elle lui dit avec une naïveté touchante « Il y a du bien dans tous les mots que Dieu nous envoie. J'ai failli me marier il y a 5 ans. Un an après, ma mère a perdu la vue. Vois-tu comme il est heureux que je sois restée fille pour la soigner? Si j'avais été mariée, qui sait si je l'aurais pu ?» Laurence, pénétrée d'admiration, sentit ses yeux se remplir de larmes. « Il est évident, dit-elle en souriant à son amie à travers ses pleurs, que tu aurais été distraite par 1000 autres soins également sacrés et qu'elle eût été plus à plaindre qu'elle ne l'est. Je l'entends remuer, dit Pauline. Elle passa vivement, mais avec assez d'adresse pour ne pas faire le moindre bruit dans la chambre voisine. Laurence la suivit sur la pointe des pieds et vit la vieille femme aveugle étendue sur son lit en forme de corbillard. Elle était jaune et luisante. Ses yeux hagards et sans vie lui donnaient absolument l'aspect d'un cadavre. Laurence recula, saisie d'une terreur involontaire. Pauline s'approcha de sa mère, pencha doucement son visage sur ce visage affreux et lui demanda bien bas si elle dormait. L'aveugle ne répondit rien et tourna vers la ruelle du lit. Pauline arrangea ses couvertures avec soin sur ses membres étiques, referma doucement le rideau et reconduisit son amie dans le salon. « Causons, lui dit-elle. Ma mère se lève tard ordinairement. Nous avons quelques heures pour nous reconnaître. Nous trouverons bien un moyen de réveiller son ancienne amitié pour toi. Peut-être suffira-t-il de lui dire que tu es là. Mais dis-moi, Laurence, tu as pu croire que je te... Oh, je ne dirai pas ce mot. Te mépriser. Quelle insulte tu m'as faite là. Mais c'est ma faute après tout. J'aurais dû prévoir que tu concevrais des doutes sur mon affection. J'aurais dû t'expliquer mes motifs. Hélas, c'était bien difficile à te faire comprendre. Tu m'aurais accusé de faiblesse, quand au contraire, il me fallait tant de force pour renoncer à t'écrire, à te suivre dans ce monde inconnu où, malgré moi, mon cœur a été si souvent te chercher. Et puis je n'osais pas accuser ma mère. Je ne pouvais pas me décider à t'avouer les petitesses de son caractère et les préjugés de son esprit. J'en étais victime, mais je rougissais de les raconter. Quand on est si loin de toute amitié, si seul, si triste, toute démarche difficile devient impossible. On s'observe, on se craint soi-même, et on se suicide dans la peur qu'on a de se laisser mourir. À présent que te voilà près de moi, je retrouve toute ma confiance, tout mon abandon. Je te dirai tout, mais d'abord parlons de toi. Car mon existence est si monotone, si nulle, si pâle à côté de la tienne, que de choses tu dois avoir à me raconter. »
Le lecteur doit présumer que Laurence ne raconta pas tout. Son récit fut même beaucoup moins long que Pauline ne s'y attendait. Nous le transcrirons en 3 lignes qui suffiront à l'intelligence de la situation. Et d'abord, il faut dire que Laurence était née à Paris dans une position médiocre. Elle avait reçu une éducation simple mais solide. Elle avait 15 ans lorsque sa famille étant tombée dans la misère, il lui fallut quitter Paris et se retirer en province avec sa mère. Elle vint habiter Saint-Front, où elle réussit à vivre 4 ans en qualité de sous-maîtresse dans un pensionnat de jeunes filles et où elle contracta une étroite amitié avec l'aînée de ses élèves, Pauline, âgée de 15 ans comme elle. Et puis, il arriva que Laurence dut à la protection de je ne sais quelle douairière d'être rappelée à Paris pour y faire l'éducation des filles d'un banquier. Si vous voulez savoir comment une jeune fille pressent et découvre sa vocation, comment elle l'accomplit en dépit de toutes les remontrances et de tous les obstacles, relisez les charmants mémoires de Mademoiselle Hippolyte Clairon, célèbre comédienne du siècle dernier. Laurence fit comme tous ses artistes prédestinés, elle passa par toutes les misères, par toutes les souffrances du talent ignoré ou méconnu. Enfin, après avoir traversé les vicissitudes de la vie pénible que l'artiste est forcé de créer lui-même, elle devint une belle et intelligente actrice. Succès, richesse, hommage, renommée, tout lui vint ensemble et tout à coup. Désormais, elle jouissait d'une position brillante et d'une considération justifiée aux yeux des gens d'esprit par un noble talent et un caractère élevé. Ses erreurs, ses passions, ses douleurs de femme, ses déceptions et ses repentirs, elle ne les raconta point à Pauline. Il était encore trop tôt. Pauline n'eut pas compris.